Père, éternel des armées, je remets ce moment en tes mains là-haut, Père céleste. Tu es le seul vrai Dieu, en dehors de toi, il n'en a point d'autre. Ô éternel des armées, la paix, je me remets en tes mains là, Seigneur, que je sois un vase d'honneur pour toi, Seigneur, afin que je puisse véhiculer ce message. Seigneur, je me remets en tes mains et je prie la paix, que le sang de ton Fils bien-aimé, Yeshua, Jésus, qui a coulé sur la croix de Golgotha, Seigneur Père, me couvre, afin que cette parole que je vais porter soit esprit et vie au nom de Jésus. Ô éternel mon Dieu, mon Père, à toi seul la gloire, Seigneur, à toi seul la gloire. Je prie la paix pour les frères et sœurs qui écouteront ce message. Ô, je les remets en tes mains, ouvre leur cœur à ta parole. Et donne-nous tous la grâce et la force de nous libérer de cela, Seigneur, de cette habitude, ô combien fréquente dans les assemblées. Ô éternel notre Dieu, c'est vers toi que je me tourne là, Seigneur. Bénis ta parole dans mon cœur et dans ma bouche. Et bénis ta parole, Seigneur, dans le cœur de tous ceux qui l'entendront, Seigneur. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Yeshua. Amen. Mes frères et sœurs, je voudrais parler d'un sujet capital qui fait beaucoup de dégâts, beaucoup, beaucoup de dégâts dans les assemblées. Je voudrais parler de la médisance, ou en hébreu, lashon hara, ou la mauvaise langue. Ra veut dire méchant, mauvais. Lashon, la langue. Ha, c'est l'article. Donc voilà. Donc lashonara. Lashonara. Pas contraction, lashonara ou la médisance. Les dégâts de la médisance. Et je voudrais m'appuyer sur un verset dans Nombre 12 à propos de Myriam, la sœur de Moïse ou Moshe. D'abord, nous allons considérer une définition simple de la médisance. Qu'est-ce que c'est que la médisance? Qu'est-ce que c'est que médire? Voilà. La médisance, on nous dit. La médisance est un nom féminin. C'est l'action de médire. L'action de médire. Or, médire veut dire quoi? Donc, médire veut dire tenir sur quelqu'un des propos malveillants, relever ses défauts avec l'intention de nuire. Voilà, relever ses défauts. Médire d'une personne, c'est tenir sur elle des propos malveillants, mais qui ne sont pas mensongers. C'est-à-dire, ce sont des propos vrais, mais dit dans le but de nuire à la personne. C'est différent de la calomnie qui est de chercher à atteindre une personne dans sa réputation par des accusations que l'on sait fausses ou bien par des accusations mensongères. Je lis encore une deuxième définition. Le terme médisance fait référence à des propos malveillants énoncés dans le but de nuire à la personne visée. En règle générale, les propos médisants font référence à des comportements, à des actions, à des traits de caractère ou à des expériences avérées ou considérées comme étant vraies. Il n'y a donc pas généralement de notion de mensonge, comme dans la calomnie. La médisance concerne le fait d'exprimer des propos malveillants contre une personne afin de nuire à sa réputation. La calomnie et la médisance ont toutes les deux pour but de nuire à l'autre. Leur sens est toutefois légèrement différent. En effet, la calomnie se rapproche un peu plus du mensonge. Voilà, ce terme vient du latin calumnia, qui signifie fausse accusation. Donc, lorsqu'on calomnie quelqu'un, on va donc exprimer une accusation mensongère pour nuire à sa réputation. À la différence de la médisance qui vient du verbe médire, qui signifie dire du mal.
dire de mauvaises choses de la personne à partir de quelque chose de vrai. Donc, on prend quelque chose de vrai et on l'exprime d'une manière malveillante. Voilà, malveillante. Donc, c'est ça la différence. Donc, la médisance part quand même du vrai ou bien avec une part de véracité. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, la médisance fait beaucoup de dégâts dans les assemblées, dans les groupes, ainsi de suite. Voilà, on médit sur tel à propos d'un de ses comportements, d'un de ses traits de caractère, ou bien de quelque chose de vrai, mais on le rapporte d'une manière malveillante pour nuire à la personne, pour dénigrer, pour nuire à sa réputation. Peut-être que c'est quelqu'un qui mange beaucoup, qui est gourmand, ou bien qui mange d'une manière sauvage, je ne sais pas. Mais on va rapporter cela, donc, pour nuire, en tout cas, pour se moquer de la personne. Ou bien tel a fait ceci, tel a fait cela. Bon, peut-être qu'il a vraiment fait, mais rapporté d'une manière pour nuire à la personne, vous voyez. Et cela s'était passé avec Myriam. Myriam, ou bien Marie, en français, donc la sœur de Moïse. C'est dans Nombres 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» L'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort humble, c'est pas patient. Le mot utilisé, c'est humble, humble, pas patient. C'est le mot, c'est humble, hein, voilà. Fort patient, c'est humble. Qu'aucun autre homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron, Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur. Moïse, il est fidèle dans ma maison. Je lui parle bouche à bouche ou face à face. » Voilà. Face à face. Je lui parle bouche à bouche. Je me réveille à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous donc pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et le jugement de l'Éternel Dieu donc va tomber donc sur à Marie, et elle sera frappée de lèpre, donc exclue du camp pendant 7 jours. Et ça ralentit donc la marche du peuple sorti de l'Égypte. De la même manière, quand dans une assemblée, dans une église, soi-disant, les uns, les autres se calomnient, mais la marche, la progression spirituelle, ou bien la marche de cette assemblée ralentie, même la marche des membres aussi est ralentie. Et ces gens sont frappés de lèpre. La lèpre représente quand même le péché. En tout cas, on peut le considérer au péché. Il y a des taches blanches sur Marie. Et c'est comme ces taches blanches étaient comme un enfant mort-né. Vous savez, vous n'avez jamais vu ça, mais nous, en médecine, nous avons déjà vu ça. Un enfant mort-né qui reste dans le ventre de sa maman, quand il sort, il est comme ce que Aaron décrit si bien, ce que la Bible dit, décrit Aaron, décrit ici, et comme aucun ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée. Et c'est vrai, quand le mort-né reste longtemps dans le ventre de la maman, c'est comme si elle a été consumée, sa peau. Vous voyez, quand il sort. Hein, donc, c'est vraiment cette lèpre-là qui a frappé, qu'on appelle Tsara. Tsara en hébreu. Tsara. Cette lèpre-là. Tsara. Tsara. Cette lèpre-là était vraiment laide et vilaine à voir, laide à voir, ce qui fait que donc Marie a été exclue du camp le temps qu'elle soit purifiée avant de réintégrer le clan. De la même manière, quand dans une assemblée dont, je répète, les gens se calomnient, ça ralentit la marche, la progression de cette assemblée, ça ralentit les personnes qui se livrent à la médisance, ça ralentit tout leur progrès spirituel, leur percée, ça retient donc la main de l'Éternel sur cette personne-là. Donc, mon frère, mes sœurs, éloignons-nous de la médisance. Éloignons-nous de la médisance. Nous voyons bien ici que Marie est partie d'une situation qui est vraie, que Moïse a épousé une femme éthiopienne, c'est-à-dire une femme africaine, une femme noire. Bon, je ne sais pas si c'est à cause de ce qu'elle est éthiopienne que ce qui gênait Marie. Bon, certains l'ont dit cela, mais la Bible ne le dit pas. Donc, moi aussi, je ne vais pas médire sur le compte de Marie, vous comprenez? Voilà, je ne vais pas médire sur son compte, même si elle n'est plus là pour se défendre. L'Éternel entend ce que je dis, vous comprenez? L'Éternel entend ce que je dis, donc je ne vais pas médire sur son compte. Mais c'est qu'il y a eu une situation qui n'a pas plu, donc, à Marie et à Aaron à propos donc de la femme éthiopienne. Donc c'est Marie qui a Aaron n'a pas été puni, mais c'est Marie puisque c'est la faute est partie d'elle. L'Éternel Dieu donc est juste. Il a jugé la coupable, c'est Marie qui est partie voir son frère Aaron pour médire sur son frère Moïse à cause de la femme éthiopienne. Pour cette histoire là, selon la Torah orale, en tout cas selon, ou bien je ne sais pas si c'est le Talmud ou bien la Torah orale, qui raconte que lorsque Moïse avait fui l'Égypte, il n'était pas parti vers il était plutôt parti vers l'Afrique, pas vers le Sinaï dans un premier temps. Il était parti donc vers l'Afrique, vers le sud et non vers le nord, parti dans le royaume de Cush. Voilà, le royaume de Cush, où il a aidé ce peuple de Cush à se libérer d'un roi sanguinaire, ou bien d'une oppression, à se libérer d'une oppression. Et pendant la bataille, le roi de Cush, ou bien oui, le roi, c'était des reines, hein, au fait, là-bas, ou des rois. En tout cas, le roi de Cush, donc, a perdu la vie, et il est décédé, donc il ne restait que la reine. Et Moïse, donc, avait épousé la reine. C'est ça qu'on raconte. Moïse avait épousé la reine, cette reine de Cush. Voilà, c'était ça. Et même que, et c'était une promesse qu'il avait faite au roi à ce roi-là, à son ami-là, avant qu'il ne décède. Et que, on voulait faire de Moïse son remplaçant, le roi. On voulait faire de Moïse roi. Or, il ne peut pas être roi sans épouser la reine. Je ne sais pas si je rapporte véritablement l'histoire. C'était ça. Donc, il a accepté d'être roi à la seule condition de ne pas toucher cette femme-là, de ne pas toucher la femme. Donc, ils se sont mariés, mais sans que le mariage ne soit consommé. C'était ça. Donc, c'est après qu'ils sont tous revenus donc, dans le désert de Sinaï après. Donc, voilà. Voilà l'histoire, que Moïse était descendu plutôt au sud dans un premier temps et il est resté longtemps là-bas avant de remonter donc dans le Sinaï vers Madian et d'aller trouver Tsipora. Donc cette femme éthiopienne n'est pas Tsipora. D'accord? Donc voilà ce que raconte cette histoire-là, cette histoire que j'ai entendue donc des... de quelques exégètes juifs. Voilà. Donc, c'est à propos de cette femme. Donc, c'est une situation vraie. Moïse a épousé une femme éthiopienne. Ça n'a pas plu à Marie. Et de là, il dit, ah oui, peut-être pourquoi il a épousé, que Dieu parle aussi par nous, ainsi de suite. Il y a une sorte de jalousie, quoi, qui s'est créée, hein, qui s'est créée et qui a fait que Myriam a mal parlé de Moïse. Voilà. Ce qui n'a pas plu à l'aide. Même si, toi, tu vois que quelqu'un a fait quelque chose de mauvais ou bien a un mauvais comportement dans ton assemblée, si c'est ton responsable, si c'est même ton frère, ainsi de suite, tu n'as pas à le rapporter. Tu n'as pas à le rapporter à autrui. Hein? Ou bien, voilà, tu n'as pas à le rapporter, ou bien Ham a vu la nudité de son père, il n'avait pas le droit de rapporter cela aux autres. Il devait faire le nécessaire. Il devait faire le nécessaire donc pour cacher la nudité de son père. De la même manière ici, Marie ne devait pas critiquer Moïse parce qu'il avait pris une femme éthiopienne. Ça ne la concerne pas. Et il a rapporté sûrement d'une manière malveillante en disant « Ok, nous aussi, l'Éternel parle par nous. » Mais non, l'Éternel a choisi Moïse, c'est dans Moïse qu'il a investi. C'est pour cela que l'Éternel Dieu a réagi de suite pour mettre fin à la dissidence, parce que cela peut entraîner la dissidence. Parce que dans beaucoup d'assemblées, il y a eu des divisions comme ça à cause de la médisance. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de frères, nous le savons, nous médisons les uns sur les autres. Même si ce sont des paroles vraies, nous ne devons pas rapporter cela. Hein? C'est ce que l'Éternel Dieu a reproché donc à Marie. Et c'est pour cela qu'elle a été frappée de lèpre. Parce que c'est loin de l'Éternel, parce que c'est le choix de l'Éternel, et Marie n'avait pas le droit de parler mal de moi en disant que l'Éternel parle aussi par elle. Mais oui, l'Éternel parle par elle, mais l'Éternel, comme il a dit, il parle bouche à bouche, face à face à Moïse, alors que eux non. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, nous devons faire très attention pour ne pas médire, pour ne pas mal parler, même si ce que la personne a fait, même si son comportement est vérifié, ce que nous rapportons est vrai, nous devons donc faire très attention pour ne pas tomber donc dans la médisance, d'accord, dans la médisance, même si dans ses comportements, dans tout, dans ses actions, ses traits de caractère ou ses expériences, d'accord, nous ne devons pas rapporter cela d'une manière malveillante, ou bien nous ne pouvons pas nous appuyer sur ça, sur un trait de caractère de quelqu'un pour parler mal de lui. Ah, tu vois cette frère, oh, tu vois cette sœur, tu vois comment elle est habillée, tu vois comment elle fait ceci, comment c'est ça, comment elle est à la maison. Ah, ok, je suis allé chez lui la dernière fois. Oui, si tu vois même ce tapis, si tu vois ceci, tu vois cela, dans son jardin, ainsi de suite, mon cher. Oh, mon frère, ma sœur, est-ce que cela te regarde? Laisse-le tranquille. Ouais, donc, la médisance nuit non seulement à la réputation de la personne, mais ça nuit aussi à la personne qui médit, parce que tu te charges donc de lèpre, de tsara. C'est un péché. Même si on ne voit plus aujourd'hui cette lèpre sur nous, cette médisance donc va entraîner donc la rupture de communion donc avec l'Éternel. Même si celui sur qui tu médis ne le voit pas, Dieu te voit. Dieu te voit. D'accord? Dieu te voit. Et la même chose également s'est passée avec les espions dans Nombre 13, directement. Dans Nombre 13. Lorsque L'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu a demandé à Moïse d'envoyer 12 personnes, 12 espions pour explorer le pays. Le rapport qu'ils ont fait après est à charge contre Dieu. Vous voyez, est à charge contre Dieu. Et ils ont dénigré le pays que l'Éternel a jugé bon de leur donner. De la même manière, nous aussi, nous faisons ça. Vous savez, tu pries, et l'Éternel Dieu te donne ce qui est bon, puisque nous-mêmes, nous le disons, que l'Éternel Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Toutes choses bonnes, plutôt, en son temps. Ou bien tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous le répétons, mais quand tu pries, et l'Éternel te donne ce qui est bon pour toi. Ah non, tu n'es pas content, tu critiques, ainsi de suite. Donc, ces espions sont allés explorer le pays. Et c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui est l'être le plus intelligent de l'univers, qui a créé toutes choses, qui a dit, ce pays est bon pour vous. Je vais vous le donner, je vous le donne. Je ne sais pas si vous réfléchissez à ça, quoi. De la même manière, il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes qui critiquent ce que nous appelons l'Ancien Testament. On peut critiquer des choses là-dedans, mais est-ce que vous savez que l'Esprit qui a inspiré le Nouveau Testament, ce que nous appelons le Nouveau Testament, et c'est le même Esprit qui a inspiré l'Ancien. Le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu du Nouveau Testament. Moi, j'ai dépassé cela. Il n'y a qu'une seule écriture, les écritures. Il n'y a qu'une seule Bible. Parce que diviser en ancien, nouveau, a semé beaucoup de divisions qui fait que beaucoup, certains chrétiens, rejettent aujourd'hui l'Ancien Testament. Comme si le Dieu qui a parlé à Moïse, qui a parlé à Abraham, est différent du Dieu qui a parlé à... ou bien est différent du Dieu qui a envoyé son fils mourir à la croix pour nous. Mes frères, je rappelle que celui qui est à l'origine de cette division est un hérétique, est doublé d'antisémitisme, ce monsieur-là, mention, on l'appelle. Donc, quand les 12 sont venus, ils ont dit, voilà, nous sommes allés à la vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel. Ils ont dit, mais là, annule tout ce qu'ils venaient de dire. D'accord? Donc, ils ont médit sur ce que l'Éternel Dieu a dit. D'accord? Ils ont été une mauvaise langue sur ce que l'Éternel dit. Mais le peu qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites avaient ceci, cela, les Amoréens, les Cananéens, ainsi de suite. Vous voyez? Mais quand le peuple a entendu ça, mais le peuple a murmuré contre Dieu, disant contre Moïse, mais Moïse quand même, mais tu as dit que l'Éternel a promis un pays pour nous, où le lait et le miel. Mais non, mais véritablement, nous ne pourrons pas s'emparer du pays. Nous sommes venus, les Amalécites, les enfants d'Allah, ils vont nous tuer. Alors nous ne sommes pas des enfants, des hommes de guerre. Ils vont nous tuer. Ils ont oublié que c'est l'Éternel Dieu qui venait de les délivrer de la première puissance du monde d'alors qui leur a promis ce pays. Si l'Éternel te promet quelque chose, il te le donnera. Dieu plus une personne égale toujours la majorité. Mes frères et sœurs, ces gens-là, ils ont médit sur Dieu. Ils ont tenu des propos malveillants sur la promesse de Dieu, sur le pays. Ils ont découragé les gens. Hein? Ils ont découragé les gens. Hein? D'accord? C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont porté atteinte à la réputation de Dieu, de l'Éternel. Parce que l'Éternel Dieu soit vrai et tout homme menteur. Ils ont fait de Dieu un menteur. Ils ont médit sur son compte. Ils ont rapporté des propos qui n'encouragent pas. Hein, qui n'encouragent pas du tout. Ils ont rapporté, ils ont dénigré le pays. D'accord? Ils ont dénigré le pays. Hein, c'est ça. des paroles sont malveillantes. La preuve, Caleb, qui assistait à cela, a fait taire le peuple, nous dit la parole de Dieu. Caleb a fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il a dit, montons et en parlons-nous, nous serons vainqueurs, parce que l'Éternel Dieu l'a promis. Alors que le peuple dit, les hommes qui sont allés avec lui disent, non, nous ne pouvons pas, car il est plus fort. Alors que leur force ne reposait pas sur eux-mêmes, mais sur l'Éternel Dieu, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui les a traversés à sec, qui a détruit l'armée de Pharaon, la première puissance, c'est comme les États-Unis d'aujourd'hui. Alors, il rajoute encore, il continue encore. Ils décrièrent, a dit, devant les enfants, disait le pays qu'ils avaient exploré, dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Nous avons vu des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Oh là 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 là. Toute l'assemblée éleva la voix, poussa des cris, pleura toute la nuit. Ils murmuraient contre Moïse, contre Aaron. Voilà, ils ont commencé à se lamenter. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par les pays, remettre en cause les promesses de l'Éternel Dieu. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, dans la souffrance, dans l'incrédulité, ne remets-tu pas en cause les promesses de Dieu? Ne parles-tu pas contre lui? Hein? Ils veulent même retourner en Égypte. Nommons un chef et retournons en Égypte. Oh là là, c'est grave. C'est grave. C'est vraiment grave. Mais ils ont médit sur le compte de Dieu. Ils ont dénigré la promesse de Dieu. Ils ont dénigré tous les propos de Dieu, les propos de l'Éternel que Moïse a rapporté. Et ils veulent maintenant retourner en Égypte, retourner à leur péché, à l'idolâtrie, à l'esclavage. Oh, alors que contrairement à Caleb, seulement le verset 9, le chapitre 14, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel, ne craignez point les gens du pays, car nous, ils nous serviront de partout, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Mais oui, ils n'ont pas d'ombrage, ils n'ont pas de protection, leurs dieux sont des idoles. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point, a dit Caleb et Josué. Est de la même racine que Yeshua ou Jésus. Yeshua, Josué. D'accord? L'Éternel est salut. Caleb veut dire chien, l'ami fidèle. La fidélité, le chien est toujours fidèle. Voilà. Ils étaient les deux à sortir du lot, à avoir foi dans les promesses de Dieu. Tous les autres ont médit. Mes frères et sœurs, lorsque nous doutons de la véracité de la parole de Dieu, lorsque nous remettons en cause les promesses de Dieu, mais ce sont des propos malveillants que nous tenons sur lui. D'accord? Lorsque nous dénigrons ce que nous appelons l'Ancien Testament, ce sont des propos malveillants. C'est de la médisance contre les promesses de Dieu, contre ce que l'Éternel Dieu a dit. Mes frères et sœurs, éloignons-nous de la médisance. Tous ceux qui ont médit, tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lisons Psaume 34, le verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Ces 10 hommes sont morts dans le désert. Ils n'ont pas prolongé leur vie pour aller jusqu'à Canaan. Mais oui, ils n'ont pas prolongé leur vie. Ils sont morts. Or, Josué et Caleb ont prolongé leur vie. Mon frère, ma sœur, quel est l'homme qui aime la vie? Est-ce que tu aimes la vie? La vie, c'est Jésus qui donne la vie. C'est Dieu, l'éternel Dieu qui est. On dit qu'il a, il a l'existence en lui-même. Il donne l'existence. Il a la vie en lui-même. Il donne la vie. C'est l'éternel Dieu qui te donne la vie, qui met en toi le mouvement et l'être. Mon frère, ma sœur, si tu veux prolonger ta vie, alors éloigne-toi de la médisance. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Ne rapportons pas les choses, mes frères, mes sœurs. Même si ce sont des choses vraies, ne rapportons pas cela à d'autres pour médire. Quelqu'un a un trait de caractère. Quelqu'un mange trop. Quelqu'un est ceci. Quelqu'un est cela. Ne rapporte pas cela pour se moquer de la personne. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, dit un autre psaume. Ou bien David, qui demandait dans une prière à Dieu de lui mettre un frein à sa langue. Un frein à sa langue. Mon frère, ma sœur, demandons tous que l'Éternel Dieu mette un frein à notre langue. Ou bien dans Jacques, qui nous dit, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. C'est ce qui s'est passé avec Marie. Son corps a été souillé de lèpre. Vous voyez, la langue souille tout le corps. La lèpre était partout sur Myriam, enflammant le cours de la vie. Si le cours de ta vie est enflammé, mais ta vie ne durera pas. Mais si tu aimes la vie et si tu désires la prolonger, la Bible nous dit de préserver nos langues des paroles mauvaises, du mal et des paroles trompeuses, de la médisance et de la calomnie. Paroles trompeuses, mensongères, c'est la calomnie. Paroles vraies, mais propos malveillants à partir de quelque chose de vrai, c'est la médisance. Enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne après. Mais oui, parce que celui qui médit n'ira pas dans le royaume des cieux. N'ira pas dans le royaume des cieux, mon frère, ma sœur. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Mon frère, ma sœur, voilà ce qui peut nous arriver. Autre chose, je voudrais considérer, ta langue n'invente que malice. Oui, la langue du médisant n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Voilà. Prions-nous tous que l'Éternel donc mette un frein à notre langue, afin de ne pas nous livrer à la médisance. Et qu'on n'entende pas de propos malveillants, propos désobligeants, ou de blagues, ou de ceci. C'est qu'on n'entende pas de propos déshonnêtes. C'est pas moi, c'est la Bible qui le sait. Déshonnêtes. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Dans Éphésiens 5, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ou bien Colossiens 3, le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. C'est ce que la Bible nous dit, mon frère, ma sœur. La médisance a causé beaucoup et cause beaucoup de dégâts dans l'assemblée et dans nos vies de chaque jour. Mon frère, ma sœur, même si tu vois quelque chose, même si tu vois quelqu'un dans un comportement qui n'est pas bon, ce n'est pas la peine de rapporter cela et de se moquer de lui. D'accord? C'est de la médisance. La médisance, c'est de dénigrer quelqu'un à propos de faits avérés sur son comportement, sur une expérience, sur une action, un trait de caractère, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou bien même sur sa manière de parler, par exemple. Les gens qui se moquent des bègues, par exemple. Je me souviens que je me suis un peu emporté avec un de mes collègues un jour, un confrère qui se moquait des bègues. Et on m'avait envoyé une vidéo où on se moquait des bègues. Se moquait des bègues. Vraiment, ça m'a vraiment agacé. Et je l'ai dit à la personne. Voilà, donc, c'est pas bon de se moquer d'un trait. C'est de la médisance, mes frères, mes sœurs. Et le plus grand, celui qui a commencé à médire, c'est le serpent ancien. Lisons cette histoire, je vais faire ici une parenthèse sur ça. Donc nous allons voir. Oh, la Bible nous dit que le serpent, au fait, a médit sur Dieu parce que il a rapporté des propos de Dieu, mais pour parler d'une manière malveillante de Dieu. Il a dénigré l'Éternel Dieu. Il a dénigré auprès de Haya, auprès de la femme de Isha. On dit dans Genèse 3, on nous dit, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas les arbres du jardin? Ouais, Dieu a-t-il réellement dit, il met un doute, il dénigre Dieu. Voilà, alors le serpent dit encore à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point, allez. Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux, donc voilà, il essaie d'insinuer dans la tête de Ève, de la femme Isha, que Dieu vous a menti, vous a trompé, il a la ruse, il ne veut pas vous donner, il vous cache des choses, ainsi de suite. Il a mis un doute, il a mis, vous voyez, il a persuadé Ève à voir le Dieu autrement, vous voyez, à jeter une suspicion sur ce que l'Éternel Dieu a dit. C'est ça, c'est lui, le serpent ancien, qui a commencé, le diable, qui a commencé à médire. Donc, il a utilisé de la médisance ici pour tromper, donc, Isha. Je vous rappelle que c'est pas Ève, hein. Ève n'est pas un prénom, au fait. En hébreu, c'est Haya, ça veut dire vie. Vie. Ça veut dire vie. Haya, vie. Donc ici, c'est la femme. On ne parle pas de Ève, c'est la femme. Hein, c'est la femme Isha. Hein, Isha. Parle à la femme, Isha. Donc, le serpent ancien, le diable, a médit sur Dieu, a dénigré Dieu, a mis Dieu en accusation, a présenté Dieu comme l'Éternel Dieu, comme quelqu'un qui a trompé, qui lui cache des choses, qui ne lui disent pas la vérité, ainsi de suite. Donc, il a médit donc sur le compte de Dieu. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il a fait. Donc, si nous ne voulons pas ressembler à l'ennemi de nos âmes, au diable, donc... Dès aujourd'hui, ne médisons plus. Ne médisons plus les uns sur les autres. Même si tu trouves quelque chose que ton confrère, que ton frère, que ta sœur a fait, ne rapporte pas. Si tu veux parler, parle à Dieu seul, à l'Éternel Dieu seul, dans ta chambre, en fermant, hein, mon frère, ma sœur. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici, parce que si nous allons en hébreu, vous savez, c'est un récit que sûrement l'Éternel Dieu a rapporté à Moïse, parce que Moïse n'était pas là quand tout cela s'était passé. Donc, c'est une narration que l'Éternel Dieu a fait. Mais si nous faisons attention au verbe, au temps des verbes, parce que beaucoup de gens, quand ils lisent ça comme cela en français, ils pensent qu'un jour, le diable s'est présenté comme ça et puis a dit, allez Ève, machin, tout ça là, allez, Dieu a-t-il réellement dit cela? Mais non, parce que les verbes sont à l'imparfait, sauf ce que Dieu dit. Quand c'est... Lorsque on rapporte les propos de Dieu, par exemple, Dieu a-t-il réellement dit, c'est au mode parfait. C'est-à-dire que c'est une seule parole que l'Éternel a dit. Et c'était ça. Il n'a pas répété deux paroles. Il a dit une seule fois et c'est fini. C'est un mode parfait, terminé. D'accord? Il a dit une fois et puis c'est terminé. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est, sa parole a des normes. Il a dit une fois, c'est bon. De la même manière, lorsque il dit encore, Dieu sait, dans le verset 5, mais Dieu sait, par exemple, le jour, c'est aussi mode parfait. Vous voyez, c'est mode parfait. Ah non, c'est, voilà, c'est le participe actif. Dieu sait. Voilà. Connaissant le bien, le mal. Lorsqu'on parle de Dieu, c'est toujours parfait. D'accord? Donc, Dieu a parlé qu'une seule fois, terminé, et puis c'est bon. D'accord? Voilà. Dieu a parlé une fois. Hein? Et alors que lorsque l'on examine à fond les propos de la femme et du serpent, par exemple, vous ne mangerez du fruit de ces arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, oui, ça c'est aussi parfait, vous n'en mangerez point. Voilà, lorsque Ève parle, ou bien lorsque bon, la femme parle et le serpent parle, c'est à l'imparfait, au monde imparfait. L'imparfait en hébreu exprime une action répétée et continue. Donc ce n'est pas simplement en un jour que le serpent, que le diable s'est présenté donc à Ève. Ça a été un travail de longue haleine. Ça a été un travail répété. Ça a été un travail que le serpent a fait auprès de Ève, auprès de la femme. C'est un travail progressif, vous voyez. L'imparfait exprime la progression, l'imperfection ou la condition d'inachèvement d'une action peut consister en sa fréquence répétition. D'accord? Une action répétée, une action progressive et continue. D'accord? Donc, il a usé de persuasion. Il a comme transformé les pensées, restructuré les pensées de Ève. Il a changé sa cognition. Vous voyez, dans notre tête, dans notre cerveau, on parle de schéma cognitif. C'est comme s'il a changé les schémas cognitifs dans la tête de Ève, ce qui fait que Ève est amené à douter de l'Éternel Dieu. Vous voyez, ce même processus se passe aujourd'hui parce que la cognition renferme les pensées et les images mentales. D'accord? C'est comme si le serpent ancien a reformaté, d'accord, le logiciel de la femme. C'est pourquoi la femme a parlé de cette façon. La femme vit que l'arbre était bon, vous voyez. Donc, c'est comme s'il y a une transformation dans sa tête, dans ses pensées. Et c'est ce qu'il a fait, parce que ça a été un travail de longue haleine, un travail progressif, un travail répété. Il est venu plusieurs fois à la preuve. La femme a dit à Dieu, quand l'Éternel Dieu lui a posé la question, il a dit que le serpent l'a séduit. Le serpent l'a séduit, voilà. Cette séduction, bien, ce reformantage se passe encore aujourd'hui. D'où nous devons faire très attention à ce que nous voyons à la télé, les informations, ce que nous lisons, les événements même qui arrivent. Les événements qui arrivent dans le monde entier participent à cela. On crée des chocs, on crée des événements traumatisants pour choquer les gens, vous voyez, pour transformer leur esprit. Au cinéma aussi, on procède à ça. On met des films pour conditionner les gens, pour habituer les gens à voir certaines choses. Aujourd'hui, il y a une idéologie donc aujourd'hui qui est en vogue dans le monde, puisqu'on remet en cause le genre aujourd'hui, selon certaines personnes, en tout cas l'idéologie aujourd'hui qui gouverne le monde, c'est que on ne naît plus femme ni homme, mais on choisit son sexe. C'est la théorie du genre. Et c'est quelque chose qui est en train de gagner les aises. Il suffit de parler avec les jeunes d'aujourd'hui, hein, et vous allez voir la transformation qu'il y a eu. De la même manière que le serpent donc, a fait avec la femme. Et c'est ce qui se passe également aujourd'hui. C'est une parenthèse que j'ouvre. Vous voyez, nous devons faire attention parce que ce que nous voyons, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous lisons, tous les modèles auxquels nous croyons impactent notre manière de réfléchir, si notre cognition, notre réflexion, notre pensée, les images mentales que nous avons dans la tête sont impactées, à nos émotions et nos comportements aussi seront impactés. Tout est lié, mes frères et mes sœurs. Et c'est ce qui s'est passé ici. Parce que quand je vois, les verbes sont à l'imparfait. Ce n'est pas parfait. Il est venu plusieurs fois. Il a fait un travail au corps. Mais la question que nous pouvons nous poser, où était l'homme? Où était l'homme pendant tout ce temps? Où était l'homme pendant tout ce temps? Pendant tout ce temps que le diable était venu, où était l'homme? Selon certains exégètes juifs, c'est que l'homme et la femme étaient séparés. C'est possible. C'est possible, je ne sais pas. C'était séparé et c'est pour cela que, ou bien l'homme était occupé à autre chose. Était occupé à autre chose. En tout cas, je ne sais pas où il était, mais il n'a pas veillé quand même sur son épouse. Il n'a pas veillé sur son épouse pour que l'ennemi ait pu avoir accès comme ça, à travailler, à changer donc les pensées de la femme vis-à-vis de l'Éternel Dieu. Parce que le verset 6 est vraiment éloquent. La femme vit. Je vais voir. La femme vit imparfait également. Vous voyez? La femme est venue plusieurs fois examiner l'arbre. Il a vu que l'arbre était bon à manger. Comment elle a su pour savoir que c'était bon, agréable pour à la vue et pour ouvrir? Comment elle a pu savoir que ce fruit est précieux pour ouvrir l'intelligence? Est-ce qu'elle a fait une analyse chimique? Il en a fait une analyse chimique? Non, c'est dans sa tête, parce que ses pensées ont été travaillées, ont été modifiées par le travail de l'ennemi. Pas le travail de l'année. De la même manière, le diable s'évertue à modifier le paradigme de ce monde, les références de ce monde, les référentiels de ce monde, les variables de ce monde. Parce que l'anti-messie ou l'antichrist ne peut pas paraître si les gens, ou bien une grande partie du monde, n'est pas prête à l'accepter. C'est important parce que c'est une émergence progressive. C'est comme le crapaud dans l'eau. On met le crapaud ou bien les escargots ou les crabes dans l'eau froide, on met sur le feu et au début j'esticule, bon, mais il cuit doucement, l'eau devient chaud, tiède, chaud, ainsi de suite, et c'est fini. Ils sont pris au piège et ils ne feront que... Et après, ils seront cuits et ils régaleront les papilles de celui qui les a fait cuire. Donc voilà ce qui s'était passé. Voilà. Donc c'est un travail minutieux que l'ennemi a fait. Et la femme a été vraiment séduite. Il y a eu une transformation au niveau de sa pensée, de sa perception des choses, de ce fruit, de cet arbre et de ce que l'Éternel Dieu a dit. Voyez, donc la femme est entrée dans la calomnie, donc a cru au mensonge, à la calomnie et à la médisance, donc, parce que le diable a utilisé les deux. Il a non seulement médit sur le compte de l'Éternel Dieu, mais il a aussi calomnié Et la femme est tombée donc dans ce piège et elle est partie aussi en donnant à son mari. Je ne sais pas ce qu'elle a dit au mari avant de lui donner, mais elle a dû vraiment le persuader véritablement. Ou bien, comme on dit, l'amour rend aveugle, peut-être, hein, que c'est ça, que l'homme était tellement amoureux de sa femme qu'il a pris le fruit sans se poser la question, hein, ou bien en disant, ok, ma femme a mangé le don, moi aussi je fais pareil parce que je l'aime. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que c'est ça, mais bon, voilà, donc, je voudrais simplement vous faire part, donc, de ça aujourd'hui, en entrant, donc, dans les conjugaisons, donc, hébraïques. Que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde. Amen et Amen.